Nous allons reprendre, si vous le voulez bien. Avec le second invité donc, de notre séminaire, qui est Luc Fraisse. Fraisse a publié beaucoup d'ouvrages sur notre auteur. Le premier, c'était sa thèse, faite sous la direction d'un éminent postien, Michel Raymond, à la Sorbonne, thèse qui a été publiée sous le titre « Le processus de la création chez Marcel Proust, le fragment expérimental », de ces fragments que j'évoquais tout à l'heure, qui prennent, au bout d'un certain temps seulement, leur place dans la grande construction. Peu après, il a publié un autre livre intitulé « L'œuvre cathédrale, Proust et l'architecture médiévale », ouvrage publié en 1988 et 1990, deux ouvrages importants sur la construction de la recherche du temps perdu, fragments et cathédrales, et depuis un certain nombre d'ouvrages, notamment sur la correspondance de Proust, dont il s'est fait une spécialité, Proust au miroir de sa correspondance et la correspondance de Proust, un livre sur l'esthétique de Proust, un livre sur le japonisme de Proust, vous le voyez, sans compter beaucoup d'autres travaux sur l'histoire de l'histoire littéraire, sur Potocki, sur Henri Bosco, etc. Son titre aujourd'hui est « Proust et l'écriture du mensonge ». À vous.
Je remercie M. Compagnon de cette si bienveillante présentation, de m'avoir invité dans ce séminaire et de parvenir à donner une telle audience aujourd'hui à des leçons sur Marcel Proust. C'est une véritable joie de voir un tel concours, une telle audience. Proust et l'écriture du mensonge. Le mensonge est essentiel à l'humanité, on ment toute sa vie. Ces maximes célèbres sous la plume du narrateur de La Fugitive rendrait tentante l'entreprise d'interroger là où les morales de Proust par une analyse du mensonge dans son œuvre, notamment principale, La recherche du temps perdu. Et de fait, le rôle du mensonge dans le champ clos de l'univers romanesque a été ici ou là clairement isolé par la critique. Mensonge nourrissant le désir, enfer du mensonge suscité par les soupçons de la jalousie, mise en scène mensongère de soi propre au snob, mensonge stratégique de l'inverti, les personnages du romancier ou le romancier lui-même. On ne serait assurément pas dans l'embarras de trouver des mensonges dans le tissu du cycle romanesque, puis d'observer leur analyse et leur utilisation par un narrateur tantôt ostensiblement séparé, tantôt mystérieusement proche peut-être de l'auteur. Ces innombrables mensonges et leur grande variété, sous le coup de quelle vérité morale tombe-t-il? Celui d'un descendant des moralistes classiques, dénonçant à l'œuvre dans la vie sociale le mensonge aux autres parce que d'abord à soi-même? Celui d'un psychologue moderne accentuant les révélations involontaires d'un mensonge inconscient? Celui d'un philosophe implicitement parti à la recherche de vérité finale? Celui d'un romancier bien obligé de frayer avec le mensonge pour essayer d'être cru de son lecteur? Celui simplement d'un homme prenant dans son œuvre des revanches sur la vie? Question trop évidente et trop embrouillée à la fois, le rapport de Proust au mensonge aurait peut-être chance d'offrir une prise si l'on y investissait l'entreprise de l'écrivain. Puisqu'on ment toute sa vie, y compris donc sans doute en affirmant qu'on ment toute sa vie, l'écrivain de la recherche, qui se veut un exemplaire de l'écrivain en général, ment-il aussi dans les parties de cette vie consacrées à sa création? Si le mensonge est essentiel à l'humanité, supposition peut-être mensongère, par où s'insinuera le mensonge dans une œuvre proposant à l'humanité sa philosophie, c'est-à-dire une plus claire conscience d'elle-même? Bref, au-delà d'Albertine et de Charlus, au-delà même du narrateur de la recherche, confronté à Albertine et à Charlus, arrive-t-il à Proust de mentir? Et pourquoi? Et à qui? Et comment? Si nous laissons délibérément de côté ces immenses pans de la question que sont le mensonge du jaloux, du snob, de l'inverti, ou simplement du sujet sur lui-même, il reste encore à surprendre deux possibles mensonges croisés, celui du philosophe sur l'entreprise d'établir des vérités et celui de l'artiste dans son entreprise de création littéraire. Il serait sans doute assez vain de prétendre déterminer si Proust, penseur, et Proust, écrivain, sont des menteurs. Du moins peut-on observer qu'ils recourent l'un et l'autre comme nécessairement au mensonge. Pour l'apercevoir, il suffira de comprendre le mensonge comme le fait d'énoncer une chose inexacte en sachant qu'elle est inexacte. Dans quelles circonstances et pour quelles raisons le romancier philosophe de la recherche manifeste-t-il dès lors le besoin de mentir? Le narrateur de la recherche du temps perdu, philosophe, et Proust est loin de mépriser cette constante activité qu'il prête à son double littéraire. Dans cet esprit, l'entreprise de l'écrivain conduit à l'établissement de vérité, ce qui laisse méditatif un Julien Gracq, dont la formule incite à sourire au moment de constater que même Proust pensait que sa gloire allait se jouer sur la découverte de quelques grandes lois psychologiques. Si la philosophie se glisse explicitement dans une œuvre littéraire et une philosophie dogmatique, posant la possibilité pour l'esprit d'accéder à une ou des vérités, l'écrivain, dans sa démarche même, se faisant romancier, rencontrera et contournera à la fois le problème du mensonge. En un sens, l'écriture du mensonge sera chez lui une faiblesse du philosophe dont il était question il y a quelques instants, qui règle ses comptes avec son siècle et tombe dans la satire. Peut-être le narrateur est-il un instant moins philosophe en dénombrant les mensonges de Madame Verdurin parce qu'il s'en venge, devant les mensonges probables d'Albertine parce qu'ils l'ont laissé amer. Même lorsqu'il s'élève à la généralité du mensonge dans une maxime dogmatique, on peut craindre qu'il ne se départisse de sa souveraine objectivité pour régler ses comptes avec l'humanité, ce que suggère le mouvement même de la célèbre phrase encore dans La Fugitive : l'homme est l'être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres qu'en soi et, en disant le contraire, ment. La démarche philosophique introduit dans l'œuvre littéraire la question du mensonge et aussitôt l'embrouille. Car d'un côté, on peut dire que c'est le dogmatisme philosophique et esthétique de Proust romancier qui crée l'existence, voire pose la nécessité du mensonge dans le champ clos de l'œuvre. Mais par là s'amorce un glissement du mensonge à l'illusion et de l'illusion à l'erreur, qui, selon toute apparence, sépare le mensonge du domaine habituel à la morale. Dans un parcours philosophique tel que le met en place Proust, les erreurs sont des mensonges délivrés de la faute et de la responsabilité, puisqu'il touche non la disposition à se montrer bon, par exemple, mais la faculté du jugement. Le mensonge pourrait se définir dans ce contexte comme une limitation provisoire de l'intelligence. Exonération donc philosophique du mensonge, esthétique aussi. Dans le domaine psychologico-esthétique où chemine volontiers Proust, le mensonge est évacué par le constat d'incommunicabilité entre les êtres et la vérité rehaussée par la communication que restaure miraculeusement l'art. Un philosophe cheminant par libre choix dans un univers romanesque qu'il a créé au service de ses desseins rencontrera partout des mensonges, ceux à l'énumération desquels nous avons renoncé, sans se voir contaminé par eux. Le processus de la pensée opérant un mouvement d'élucidation, le mensonge est une imperfection en attente de perfection et le menteur, un menteur provisoire. Même si l'on ne voit pas bien Au moment où le personnage ment ou se ment, quand viendra pour lui l'heure de la vérité? On se souvient de cette réflexion du narrateur sur Swann se demandant « Pour quelle autre vie réservait-il de dire enfin sérieusement ce qu'il pensait des choses, de formuler des jugements qu'il put ne pas mettre entre guillemets, et de ne plus se livrer avec une politesse pointilleuse à des occupations dont il professait en même temps qu'elles sont ridicules ?» Le narrateur, ici proche de Proust, ce sera l'une de nos principales intentions de l'observer sous ce jour, est un semblable menteur provisoire dont le terme du mensonge est simplement marqué. C'est ainsi que Proust peut prévenir tel lecteur, de du côté de chez Swann, que la conclusion du volume, d'apparence subjective et dilettante, n'est qu'une étape trompeuse au sein d'une œuvre s'acheminant, dit-il, vers la plus objective et croyante des conclusions. Lui, du moins, parlera un jour sans ces guillemets de politesse qui pactisent avec le mensonge. Le narrateur, parce qu'il est philosophe et a poussé sa philosophie latente jusqu'au bout du système, dispose donc de cette autre vie qui ne le rapproche pas moins, en tant que narrateur du temps perdu, de ses personnages comme menteurs provisoires. Mais on aperçoit ici que le statut du mensonge au sein d'une œuvre philosophique qui garde ses vérités pour plus tard se rattache au problème d'un itinéraire spiritualiste sans au-delà. Pour quelle autre vie ? Donc, de l'identification d'un mensonge, sans recours nécessaire à une morale au moins spiritualiste, d'une transcendance, en somme, réduite aux acquis de l'immanence. Le philosophe qui s'introduit dans une œuvre romanesque pour la diriger adopte pour commencer l'alibi de l'impersonnalité. Il bénéficie de la disparition élocutoire du sujet susceptible par sa parole de mentir. Si de plus ce philosophe est immanentiste, dans l'univers de l'immanence, c'est à la solidité de la construction qu'est confié le soin d'éviter le risque ou le soupçon de mensonge. Au temps de Montaigne, la vérité pouvait s'atteindre parfois à sauts et à gambades. Au point de vue de Proust, l'écrivain se pose en constructeur pour montrer qu'il ne ment pas, qu'on doit le croire, quitte à ouvrir quand même dans les passages à vide ce que Pascal appellerait de fausses fenêtres. Si pour un chrétien de Troyes qui se met au service d'une transcendance, la belle conjointure de l'œuvre est un gage, comme celle des cathédrales contemporaines, de conformité à ces vérités transcendantes, chez Proust, le sujet écrivant, s'étant fait philosophe, trouve son travail de construction comme un recours à la parole mensongère. Je construis, donc je dis vrai. L'identité de narrateur et d'auteur que crée d'emblée l'avenir même de l'écriture dans la recherche dégage au sein du sujet gouverné, comme les autres, par le mensonge, le droit d'en être exempté par l'établissement de vérité et la construction d'un itinéraire, celui de leur découverte. Le philosophe, séjournant parmi les vérités, se fait romancier pour traverser le mensonge humain. Dans ce contexte, le mensonge présente le défaut d'être particulier et la vérité l'avantage d'être général chez Proust. Mais comme romancier et philosophe ne peuvent véritablement être séparés dans le sujet écrivant, l'expérience les lie dans la complicité de ce que le catéchisme inculqué à Proust dans ses années d'enfance appelait le respect humain. Le philosophe dogmatique, quoique détenant les vérités à la recherche desquelles il est très tôt parti, doit accepter ou ne peut toujours s'empêcher de mentir. Parce qu'il vit en société, c'est-à-dire, nous retrouvons les moralistes classiques, veut plaire et en outre se dupe lui-même. Il se ressaisit de loin en loin par la maxime d'Aristote, quand il ne fait pas chevaucher Campaspe, amicus Plato, sed magis amica veritas. J'ai pour ami Platon, mais pour bien meilleur ami, la vérité. que l'on rencontre si souvent dans la correspondance de Proust, cette maxime latine. Cette correspondance où le respect humain, se donnant presque entièrement libre carrière, procure aux théoriciens du temps retrouvé toutes les occasions de mentir par écrit, c'est-à-dire d'énoncer imperturbablement dans ses lettres ce qu'il tient en secret pour des contre-vérités. Ah. Au sein du philosophe romancier, la séparation entre vérité et mensonge serait peut-être une question de portée de regard, c'est-à-dire de plus ou moins longue portée. Télescope de la vérité contre microscope du mensonge, serait-on tenté de dire, même si le rapport est susceptible de s'inverser, dans la mesure où la vérité s'aperçoit, note le narrateur du temps retrouvé avec une pointe de regret, à claire voix. C'est un peu décevant. Quand le mensonge, lui, promet des prolongements. Le clivage nourrit en outre une loi de renversement univoque, car le mensonge peut être rectifié. Mais on n'envisage pas chez Proust une vérité, pour finir, travestie en mensonge. Tout au plus sera-t-elle découverte comme fausse vérité, et dès lors remplacée par une autre. L'ancien licencié ès lettres et philosophique et l'écrivain de la recherche conçoit donc le mensonge à la fois en littérateur et en philosophe, et dès lors dans un contexte moral hautement problématique. Je crois même que c'est le sujet de l'année. Même si la morale était la spécialité expresse de Paul Janet, titulaire de la chaire de philosophie à la Sorbonne, les maîtres de Proust lui ont enseigné que la morale constitue la partie de la philosophie la moins propre à la philosophie, c'est-à-dire donnant à voir ce que chaque philosophe reflète de l'idéal et des mœurs de son temps, ce qui compte peu en philosophie. Ça compte beaucoup en histoire littéraire, moins dans l'élaboration des systèmes. La morale, où situer le mensonge, intéresse cependant assez l'apprenti philosophe pour s'accomplir en romancier. Alors, ce qui l'intéresse dans la morale, eh bien, c'est qu'elle statue sur des rapports qui retiennent toute son attention entre théorie et pratique, entre logique et intuition. Les moralistes classiques lui propose ici une heureuse charnière de la littérature à la philosophie, et son narrateur emprunte de fait à La Rochefoucauld la hantise d'être dupe. La Rochefoucauld, dans La Recherche, c'est, pourrait-on dire, le mensonge à soi-même, mode d'emploi. Peut-être aussi un Protagoras réaménagé, nul n'est menteur volontairement. Sauf à retenir, comme inverse de la duperie selon les classiques, dans le roman de Proust, la chimère nervalienne, que sont Odette et Albertine pour Swann et le héros, et pour le héros encore, la duchesse de Guermantes et le faubourg Saint-Germain. La chimère nervalienne, c'est-à-dire un mensonge à soi-même, librement consenti, le moyen de laisser courir sa rêverie sur les êtres et sur les choses. À moins de pratiquer, un moment, le mensonge expérimental, que vide de tout contenu moral, du moins en apparence, sa mise au service de la connaissance. Le philosophe se coule dans les formules du mensonge, comme Swann, se donnant la sensation musculaire de la grimace en considérant la gaieté fétide qui règne chez les Verdurins. Ou ce même petit clan, voisinant aux côtés d'un Charlus peinturluré et pansu, comme on manie une boîte d'origine exotique, dont l'idée du contenu soulève le cœur. Chez Proust, épistolier, distribuant ce qu'il considère comme des contre-vérités à tant de ses contemporains, on soupçonne plus profondément que le snobisme, la crainte d'être rejeté ou le respect humain, une démarche intuitive consistant à adopter le langage et toutes les accointances des points de vue que l'on aborde pour mieux les connaître, pour en expérimenter l'exercice. Quand le rapport au sein du sujet entre mensonge et vérité n'est pas compliqué par le respect humain, que définit à Proust l'examen de conscience chrétien, entrent en jeu les grands clivages augustiniens et pascaliens, selon le modèle desquels il faut avoir vécu dans l'erreur, traverser bien des mensonges pour accéder véritablement à la vérité. Le modèle, quant à lui, de la vocation spirituelle fournit à Proust l'idée de mettre en scène ce temps, qui peut être long, où la vérité a été perçue par celui qui persiste à vivre dans le mensonge. L'idée aussi d'un narrateur laissant en silence, il faudra y revenir, croître aussi bien l'ivraie que le bon grain, sachant que pour finir, il jettera l'une au feu et placera l'autre dans une lumière irradiante. L'héritage cartésien du doute méthodique inspire au romancier du temps perdu la mise en scène étirée d'un scepticisme factice, fin, mais aussi le mouvement du mensonge à la vérité, c'est-à-dire, on l'a vu, des idées confuses aux idées claires. La triade platonicienne du bien, du vrai et du beau y trouve-t-elle son dû ? Les théories contemporaines de Proust et de lui connues apportent autant de réponses particularisantes et peu unifiées. Je rappelle la deux évidences. En contexte schopenhauerien, on pourrait dire qu'en dehors du cas exceptionnel de la musique, la voix de la volonté dans sa vérité ne peut s'incarner qu'indirectement dans des représentations par la mensongère sur leur nature et sur leur but. Chez Schopenhauer, la métaphysique de l'amour que l'on publiait à part à l'époque de Proust est déjà une métaphysique du mensonge, ce qui est assez rare. Bergson dénonce quant à lui le mensonge de l'intelligence, qui sert à l'établissement du vrai, mais introduit dans la vérité trouvée ces catégories déformantes, projection du temps dans l'espace et autres syllogismes. Enfin, dans le contexte de la psychophysiologie contemporaine que connaît Proust, lecteur de Ribot, le manque de volonté est une fabrique de mensonges. Et la maladie de la personnalité, une distension de la capacité à énoncer des vérités. Ces vérités, le doctrinaire, à contrario, est celui qui a retrouvé la volonté de les chercher et la personnalité de les mettre en œuvre. Entre-temps, les défaillances de la mémoire ont donné au sujet insincère l'alibi de l'intermittence. Et la littérature ? Proust n'aborderait-il décidément le problème du mensonge qu'en philosophe doctrinaire, qui doit conférer un statut à tout ce qu'il rencontre, mensonge compris, dans l'établissement de ce qu'il tient pour la vérité ? Il y a apparence que l'auteur de la recherche n'a pas chaussé les bottes de l'affabulateur, du fabricant de fiction, avec le même naturel et la même conviction native que le chercheur de vérité, lequel semble avoir précédé en lui l'élaboration même de la pensée. Il faudrait effectuer ici une courte station devant l'exercice du pastiche, qui est une forme de mensonge littéraire patenté. Ce que rédige Proust pour le Figaro en 1908-1909, puis peu avant leur reprise en 1919 pour les pastiches et mélanges, ont pour sujet, emprunté à l'actualité réelle, une escroquerie, l'affaire Lemoine. On n'en finirait pas d'extraire du pastiche tous les rapports unissant l'exercice de l'écriture et le mensonge. Jusqu'à la mise en scène dans le temps retrouvé du faux passage du journal des Goncourt sur le salon des Verdurin, qui permet au narrateur de mentir provisoirement au lecteur en s'exclamant devant cette forme descriptive de littérature qu'il va bientôt rejeter, « Prestige de la littérature ». C'est un mensonge. Que les littérateurs mentent, et peut-être même par nature, est un message officiel contenu dans la recherche du temps perdu. Nous ne quittons pas tout à fait la question du pastiche en observant que Bloch, devenu écrivain à l'époque du temps retrouvé, est un virtuose du plagiat. Et Bloch se donnait un alibi rétrospectif en me disant « Chaque fois que je lui avais esquissé quelque chose qu'il trouvait bien, tiens, c'est curieux, j'ai fait quelque chose de presque pareil, il faudra que je te lise ça. » Il n'aurait pas pu me le lire encore, mais il allait l'écrire le soir même. Voilà qui nous fait considérer d'un œil soupçonneux la prétendue confidence que fait Proust à Marthe Bibesco en 1909 sur la poésie des noms et l'invocation aux villes que l'on rencontre dans les œuvres poétiques et romanesques d'Anna de Noailles. « J'ai dû brûler presque un volume sur la Bretagne, écrit avant d'avoir jamais rien lu d'elle, Anna de Noailles, et où les Quimperlés et Pont-Aven semblaient venir de l'ombre des jours ou de la domination. » De cette hypothétique et hyperbolique auto-da-fé, a cependant survécu la page sur Pont-Aven et Quimperlé dans le troisième chapitre de Du côté de chez Swann, paraissant 4 ans plus tard, considérant alors que la densité du style et l'insertion dans une construction transcendent tous les apparentements. Ce que se hâte d'affirmer le narrateur de La Prisonnière à propos de Vinteuil, les phrases de Vinteuil. Ces phrases-là, les musicographes pourraient bien leur trouver un apparentement, leur généalogie dans les œuvres d'autres grands musiciens, mais seulement pour des raisons accessoires, des ressemblances extérieures, des analogies plutôt ingénieusement trouvées par le raisonnement que senties par l'impression directe, car précisément tout est là. L'écrivain original n'est donc, selon Proust, qu'en apparence, comme le disait avec délectation de Zola Edmond de Goncourt, le ressemeleur de la littérature contemporaine. Le Septuor pourrait être passé au crible du musicologue Romain Rolland, dont le Jean-Christophe semble avoir volé, dès avant 1913, à Proust l'idée de la recherche, l'histoire d'une vocation d'artiste. La mauvaise foi du créateur, biaisant sur ses sources d'inspiration, est transcendée par l'entreprise de son invention. On pourrait, avec le recul des parutions posthumes, être surpris de voir le théoricien de Contre-Sainte-Beuve poser que les écrivains mentent dans leur œuvre, mais que la connaissance de leur vie est heureusement là pour rétablir la vérité. C'est ce que suggère à sa prisonnière le héros, comparant deux littératures, deux littérateurs, sans doute volontairement choisis pour leur valeur inégale, dont les portraits se font vis-à-vis à Versailles. Laclos, le bon père de famille, auteur d'un roman sulfureux, et Madame de Genlis, auteur de Comte Moreau et usurpatrice parmi les enfants de France. Le doute plane sur la biographie de Dostoïevski, auteur de crimes et de mots cachés. L'idée semble bien que si l'auteur se met à mentir, la littérature peut commencer. Un mensonge infiltré dans la création littéraire que le philosophe, surgissant ici à point, postule volontaire et pleinement contrôlé. Si l'auteur, notamment moderne, se fait de son œuvre, selon la formule de La Prisonnière, à la fois l'ouvrier et le juge, l'exercice du mensonge y sera aussi bien sous contrôle, le juge, et en liberté, l'ouvrier. Ce sera pour remarquer que dans un roman, fût-il philosophique, l'avantage du mensonge est d'être le plus souvent verbal. Et l'inconvénient des vérités non théoriques, de se passer volontiers de mots. La vérité n'a pas besoin d'être dite pour être manifestée, est-il noté dans le côté de Guermantes à propos de Françoise. Quitte à rester dès lors incompréhensible, comme le geste obscène de Gilberte dans le Rédillon de Tansonville. D'où résulte la promotion compensatoire du lapsus et autres tics de langage, qui permettent à la vérité de se dévoiler, certes, au-delà de la parole dite, mais du moins par les mots. Mais la faiblesse pour un écrivain de la vérité est un fait, et donc aussi, à contrario, la force du mensonge, l'une et l'autre perceptibles dans la succession des trois âges dogmatiques de la recherche, puisque pour accéder à la vérité recherchée, il est bel et bien nécessaire de renoncer au registre du langage, nom, puis mot, pour accéder enfin aux choses. Mais il ne faut pas méconnaître que le mensonge revêt une dimension proprement musicale, dont fournissent le modèle, dès du côté de chez Swann, les phrases de Chopin, feignant de partir si à l'opposé de leur but pour y revenir plus délibérément. Les mensonges, surtout par omission, il faudra y revenir, du narrateur proustien, ont pour équivalent les blancs narratifs de l'éducation sentimentale, dont Proust, critique littéraire, remarque en 1920 que Flaubert le premier les met en musique. Le philosophe du temps retrouvé s'installe ainsi, bon gré mal gré, dans le mentir vrai du romancier, dont il n'est pas a priori amateur. Ce mentir vrai du genre romanesque auquel le romancier philosophe pourrait se heurter de front connaît, chez lui et après lui, un renouveau dans l'essor de l'autobiographie fictive. Conçu ici comme le travestissement de l'autobiographie au service d'une construction, d'une démonstration. Le mensonge de l'art pourra sembler au lecteur poussé au comble du scandale dans l'autofiction, qui fait porter le mensonge sur ce qu'il y a de plus proche de soi, c'est-à-dire soi. Chez Proust, les formules intéressantes à ce sujet dans la correspondance, ce qui se définit son narrateur. Celui qui dit « je » et qui n'est pas toujours « moi ». Je peins tant de choses différentes dans mon œuvre que vraiment on ne peut penser que tout est moi. Ces formules suggèrent conjointement que la vérité autobiographique est un coup de pouce que s'offre l'écrivain, les mensonges fictionnels servant de leur côté à remplir des vides. Il est malheureux, doit ici estimer le philosophe, de devoir en passer par le roman pour établir ses vérités. Surtout quand se pose le problème, propre à la narration romanesque, d'un narrateur lui-même, devant Albertine et dès lors jusqu'où, susceptible de mentir, alors qu'il est statutairement celui par qui seul se révèle l'univers romanesque. Ce problème, qu'isolera Agatha Christie dans Le meurtre de Roger Ackroyd, où le narrateur du journal se révèle l'assassin, s'insinue dans le roman philosophique à la faveur du huis clos de la jalousie. Le héros ment à une menteuse supposée pour l'établissement d'une vérité. Mais n'est-ce pas un alibi ? Au regard de la fin de l'œuvre, des vérités dont le programme sera articulé dans le temps retrouvé, le clivage entre mensonge et vérité dessine l'âpre combat de l'optimisme et du pessimisme au cœur de l'entreprise proustienne. Mensonge de la vie et donc du roman, contre vérité de l'art et donc de l'esthétique. Mensonge romantique et vérité romanesque, dira René Girard, mensonge romanesque et vérité esthétique, à part avance surenchérit Proust. Je ne suis pas romancier. Cette déclaration du héros à sa prisonnière, qui est généralement traduite par la critique en « je ne suis pas Proust », n'est pas seulement cela. C'est aussi un moyen d'affirmer, au sein d'un roman à visée philosophique, que le narrateur ne passe pas son temps à affabuler. Du reste, la mythomanie de certains personnages, cette folie dostoïevskienne qui passera d'Albertine à Nadja, renvoie le héros qu'il observe dans le champ de la norme. Et le mensonge immédiatement éventé, ceux de Charlus en milieu Verdurin, fait de l'assistance clairvoyante un double dégradé du narrateur en activité. D'où l'on pourrait, à contrario, déduire que c'est l'épaisseur des mensonges environnants qui donne sa profondeur au narrateur. Le mensonge romanesque prend, il est vrai, de belles revanches sur ce dogmaticien prétendant tenir la fiction sous son joug. Il faudrait apercevoir sous cet angle la célèbre apostrophe « Mais à qui au juste ?» à Charles Haas, « Cher Charles Swann, que j'ai si peu connu quand j'étais encore si jeune et vous près du tombeau. C'est déjà parce que celui que vous deviez considérer comme un petit imbécile a fait de vous le héros d'un de ses romans qu'on recommence à parler de vous et que peut-être vous vivrez. Si dans le tableau de Tissot représentant le balcon du cercle de la rue Royale où vous êtes entre Galifée, Edmond de Polignac et Saint-Maurice, on parle tant de vous, c'est parce qu'on voit qu'il y a quelques traits de vous dans le personnage de Swann. L'auteur et son narrateur, résolument installés, comme ils le déclareront à l'époque du temps retrouvé, dans ce livre où il n'y a pas un seul fait qui ne soit fictif, où il n'y a pas un seul personnage à clé, où tout a été inventé par moi selon les besoins de ma démonstration, qu'on se le dise, l'auteur et son narrateur paient doublement dans l'apostrophe de la prisonnière ce mensonge théorique et honté, puisqu'ils sont simultanément pris en flagrant délit de vouloir rompre la loi qu'ils ont eux-mêmes instaurée et d'être placés dans l'impossibilité de le faire. D'où résulte cette incohérence d'affirmer que le personnage de Swann doit quelque chose à Charles Swann. Le mensonge et honté reçoit, en pratique et in fine, le statut de vérité. La preuve qu'en effet il n'y a pas de clé dans le roman, c'est que la plume bifurque au moment de tracer le nom de l'une d'elles, par un effet de boomerang de la fiction qui fait inexorablement retomber la pierre dans le champ d'où elle a été lancée. Quelle ressource, mais aussi quel problème apporte le mécanisme du mensonge au narrateur, décidément devenu romancier ? Notons qu'ici, ses fonctions demeurent exactement contraires. En tant que romancier, traverser le mensonge des apparences pour déduire la vérité des êtres, et philosophe, mettre en scène longuement des mensonges pour donner du prix à l'apparition de la vérité. Le jeu des voies narratives, essentiellement le dédoublement de l'instance narrative entre un héros qui s'avance dans la vie et un narrateur qui en a déjà tiré toutes les conclusions, pose à l'entreprise romanesque un problème de sincérité. Qu'arrivé à un certain point, le narrateur de La Prisonnière doit exposer au lecteur, lui révélant que la présentation de son parcours résulte de choix inévitables qui de toute façon requièrent un procédé artificiel et mensonger. On connaît cette déclaration où l'aveu des mensonges du héros jaloux amène celui des mensonges, il faudrait dire techniques, du narrateur. Mes paroles ne reflétaient nullement mes sentiments. Si le lecteur n'en a que l'impression assez faible, c'est qu'étant narrateur, je lui expose mes sentiments en même temps que je lui répète mes paroles. Mais si je lui cachais les premiers, les sentiments, et s'il connaissait seulement les secondes, les paroles, mes actes, si peu en rapport avec elles, lui donneraient si souvent l'impression d'étranges revirements qu'il me croirait à peu près fou. Procédé qui ne serait du reste pas beaucoup plus faux que celui que j'ai adopté, car les images qui me faisaient agir, si opposées à celles qui se peignaient dans mes paroles, le mensonge du héros, étaient à ce moment-là fort obscures. Je ne connaissais qu'imparfaitement la nature suivant laquelle j'agissais. Aujourd'hui, j'en connais clairement la vérité subjective. Au moment même où le héros se voit, difficilement d'ailleurs, absous comme menteur involontaire, le narrateur se voit par contre-coup contraint de s'avouer menteur stratégique. Le mensonge y a gagné, de devenir un inévitable procédé romanesque et rien de plus. En tant que romancier, puisqu'il le faut bien, le narrateur manipule les formes de mensonge comme le clavier d'une gamme. Le snobisme représentera le mensonge à soi-même, l'inversion le mensonge obligé, la jalousie la hantise du mensonge. Les mensonges à rebondissement aboutissant ici sur la peur du vide. Devant ce qu'on ne saura jamais, devant le rien qu'il y avait peut-être en fin de compte à comprendre, c'est ça qui est au bout de la jalousie. Tel est sans doute le sens profond de l'être de fuite. D'où résulte à contrario l'espoir, très tôt formulé, à propos de la sonate de Vinteuil, que les illuminations de l'art nous délivrent de ce que nous prenons pour du vide et pour du néant. La mise en scène du mensonge mondain pourrait, quant à elle, exercer une vertu curative sur le snob, équivalente à ses écrits à valeur psychothérapique qu'on commence, au temps de Proust, à demander de rédiger aux névrosés en traitement. Le mensonge amoureux rejoint la question touchant à l'écriture romanesque de la traduction. On se souvient des phrases échangées avec Gilberte, mais surtout Albertine, qu'il suffirait d'énoncer en sens contraire pour obtenir, paraît-il, la vérité. Notons cependant qu'ici, le mensonge traduisible, généralement déclaratif, par là reste pauvre. Il est pauvre, le mensonge déclaratif. Le mensonge par omission, transformation partielle, à demi inconscient, est plus intéressant. Parce que la vérité à laquelle il renvoie ne fait pas équation, mais requiert un développement. Le mensonge, chez Proust romancier, est une donnée pas même sociale, mais psychologique. On rencontre peu de mensonges révélés au grand jour. Et si c'est très rarement le cas, la révélation est paradoxalement silencieuse. Telle la réapparition de Madame Verdurin en princesse de Guermantes, permettant d'induire que tout ce qu'elle disait sur les ennuyeux était mensonger, puisqu'elle en fait partie. Semblable mensonge permet à court terme un beau coup de théâtre, et à plus long terme, la réunion des deux côtés de la recherche. Dans l'affaire Dreyfus, Proust n'accorde par exemple presque aucune répercussion au faux Henri, qui est mentionné quand même ici ou là, comme cela. En romancier qui refuse avec Mallarmé l'universel reportage, lequel en l'occurrence ferait toute la vérité sur une tromperie publique. On rencontre en conséquence essentiellement sous sa plume des mensonges et les vérités correspondantes en modèle réduit, c'est-à-dire réduits à la sphère d'une conscience. La découverte que Saint-Loup, qui parlait contre les invertis, l'est lui-même, voilà un mensonge, a été par avance affaiblie par la découverte que Charlus était une femme, ce qui rectifiait moins un mensonge que cela n'expliquait enfin une bizarrerie, ou plus profondément que cela ne plaçait devant l'énigme même des êtres. Mais de toute façon, la révélation du mensonge n'est valable, le cas de la jalousie le montre à l'extrême, que pour la conflagration intime qu'elle provoque dans la conscience du sujet. Notons qu'une telle démarche oblige le romancier, c'est un paradoxe, à extérioriser les mensonges et à intérioriser les vérités. Chez Proust, le propre du mensonge n'est pas de se forger dans le secret d'une pensée, ni le propre de la vérité d'éclater au grand jour. Force et à vrai dire aussi faiblesse du romancier. Un romancier souvent naïf, au moment de révéler les mensonges de ses personnages, estimant avoir ménagé ses effets et stupéfié son lecteur. Par quoi l'utilisation du mensonge relèverait chez lui d'une sorte de snobisme générique. Le mensonge, travaillant l'univers romanesque, est ce qui, simultanément, donne de l'épaisseur au personnage, de l'activité au héros, secondé par le narrateur, et peut-être de la fatigue au lecteur. Témoin de ce goût du raisonnement pour le raisonnement, qui finit, ce qui eut très bien convenu à Bergson, par s'enrayer lui-même. La situation du lecteur dans le réseau romanesque des mensonges a été plusieurs fois évoquée jusqu'ici. Il faudrait mettre un instant l'accent sur le jeu qu'instaure avec lui le narrateur de la recherche, le lecteur. À l'égard de ce lecteur, Proust, en principe, postule le devoir de tout dire, au-delà même de ce qu'il demande, au-delà même sans doute de ce qu'il peut voir, tout. C'est par là, entre autres, que la minutieuse construction du cycle romanesque s'apparente à celle des cathédrales. Je cite une lettre, « Le contraire de l'art mufle étant celui des cathédrales, des architectes des cathédrales, qui faisaient des sculptures aussi raffinées derrière une statue à une hauteur où personne ne les verrait, impression accrue pour nous de tout le symbolisme des pensées que nous ne connaissons pas sauf les érudits. » On parlait des mille mâles, hein, par exemple. La sculpture raffinée qui se cache derrière une statue, ce sera dans la recherche, ce détour de phrase dans le côté de Guermantes, que le lecteur a peu de chances de remarquer pleinement, à la faveur duquel se découvre un instant la vocation invisible dans cet ouvrage et l'histoire, c'est-à-dire le sujet le plus général de l'œuvre, un sujet, remarquons-le, non dit, caché. Caché par la théorie de la mémoire involontaire et l'épisode si en relief de la Madeleine. Un sujet, on le sait ici, peut en cacher un autre. Et, vu l'importance englobante de la vocation d'écrivain, il faudrait parler à ce propos du grand mensonge de la mémoire involontaire comme sujet du roman, mensonge proprement affiché dans les titres. Par un jeu de renversement, le narrateur, dans une telle entreprise, parce qu'il entend conduire le lecteur vers des vérités à la fin seulement révélées, doit provisoirement mentir en s'attardant, dirait Proust, dans la peinture des erreurs. Parce que son narrateur et lui sont partis, ainsi qu'il le rappelle à Jacques Rivière en février 1914, comme Malebranche à la recherche de la vérité, je suis donc forcé de peindre des erreurs, sans croire devoir dire que je les tiens pour des erreurs. Tant pis pour moi si le lecteur croit que je les tiens pour la vérité. Le second volume accentuera ce malentendu, j'espère que le dernier le dissipera. C'est-à-dire que dans la gestion de sa démonstration à long terme, le romancier dogmatique est amené à très souvent prêcher le faux pour mettre en réserve l'apparition ultime du vrai. Il est parfois, dans ses déclarations mensongères, saisi d'un infime scrupule. Revenant sur ses lectures autrefois à Combray, le narrateur écrit « Si mes parents m'avaient permis, quand je lisais un livre, d'aller visiter la région qu'ils décrivaient, j'aurais cru faire un pas inestimable dans la conquête de la vérité. J'aurais cru, et malgré tout glissé dans la phrase, puisque le même narrateur a prévu de déclarer à l'autre bout de l'œuvre un démenti complet de cette croyance enfantine dans le temps retrouvé. Je savais que les pays n'étaient pas tels que leur nombre les peignait, j'avais trop expérimenté l'impossibilité d'atteindre dans la réalité ce qui était au fond de moi. Donc inutile d'aller visiter les pays, c'est en soi qu'on les porte. La modalisation annonciatrice, j'aurais cru, de la première phrase peut passer inaperçue. Mais Proust et son narrateur n'ont pas pu aller jusqu'à énoncer sans restriction une fausse déclaration. A-t-on cependant remarqué à quel point le narrateur, au moment où va entrer en scène une vérité esthétique importante, dès avant le temps retrouvé, ralentit son récit, qui se confond ici avec un raisonnement, le temps d'accumuler toutes les erreurs, c'est-à-dire toutes les fausses interrogations possibles, en salve. Ce temps de latence appartient au rythme même de sa démonstration. Nous voici à Combray, juste avant que ne soit retrouvé le son des sanglots qui rattache en réalité, sans solution de continuité, le narrateur d'aujourd'hui au petit enfant d'autrefois. Il y a bien des années de cela. La muraille de l'escalier où je vis monter le reflet de sa bougie, il s'agit du père, n'existe plus depuis longtemps. En moi aussi bien des choses ont été détruites que je croyais devoir durer toujours, et de nouvelles se sont édifiées que je n'aurais pu prévoir alors, de même que les anciennes me sont devenues difficiles à comprendre. Il y a bien longtemps aussi que mon père a cessé de pouvoir dire à maman « Va avec le petit, la possibilité de telles heures ne renaîtra jamais pour moi. » Et juste avant la résurrection du souvenir involontaire dans l'épisode de la Madeleine, tout cela était en réalité mort pour moi. Plus discrètement dans le troisième chapitre de Du côté de chez Swann, juste avant qu'un rayon de soleil sur le balcon ne ramène la joie de retrouver Gilberte aux Champs-Élysées. Depuis le déjeuner, mes regards anxieux ne quittaient plus le ciel incertain et nuageux. Il restait sombre. Devant la fenêtre, le balcon était gris. À ce moment de la narration, il convient de faire bonne mesure, de prolonger le plus longtemps possible la négativité, qui n'est qu'une étape dans un raisonnement dialectique, en attente d'un « mais », d'un « pourtant » qui ne tardera pas. Pour ce faire, le narrateur se hâte de réunir en faisceau tout ce qu'il sait être faux. Il le répétera avec toutes les redondances et synonymies nécessaires qui se transforment en fausses interrogations, notamment surtout chez le héros de la prisonnière dans les grands moments de méditation métaphysique, celle sur Vinteuil et Wagner pendant la sortie d'Albertine, qui bute sur l'habileté vulcanienne des grands compositeurs. Serait-ce elle qui donnerait chez les grands artistes l'illusion d'une originalité foncière, elle, c'est cette habileté vulcanienne, irréductible, en apparence reflet d'une réalité plus qu'humaine, en fait produit d'un labeur industrieux. Si l'art n'est que cela, il n'est pas plus réel que la vie, et je n'avais pas tant de regrets à avoir. Et bientôt après, pendant l'audition du Septuor chez les Verdurin, au moment de constater que Vinteuil, mort depuis nombre d'années, avait éternisé dans son œuvre une part au moins de sa vie d'homme seulement. Si l'art n'était vraiment qu'un prolongement de la vie, valait-il de rien lui sacrifier? N'était-il pas aussi irréel qu'elle-même? Ces doutes, à dessein prolongés et accentués, relèvent de l'artifice rhétorique. Sous la plume d'un écrivain philosophe qui suit son plan, ils reçoivent une caution de revêtir une patine culturelle. Les interrogations multiples suivant ici le modèle du monologue délibératif dans la tragédie classique. C'est par ailleurs le gigantisme de l'œuvre qui autorise à marquer ici les charnières du raisonnement, quitte à grossir le trait, à forcer la péripétie intellectuelle. On sait enfin la valeur proprement musicale que prête à Proust à ses fausses interrogations, le narrateur de Sodome et Gomorre comparant le dialogue préliminaire entre Charlus et Jupien, qui viennent de se rencontrer dans la cour des Guermantes, à ces phrases interrogatives de Beethoven, répétées indéfiniment à intervalles égaux et destinées, avec un luxe exagéré de préparation, à amener un nouveau motif, un changement de ton, une rentrée, c'est-à-dire dans la recherche, l'entrée en scène d'une révélation. Bref, il existe une morale esthétique du mensonge que résume tout entière la fameuse lettre de février 1914 à Jacques Rivière. J'ai trouvé plus probe et plus délicat comme artiste de ne pas laisser voir, de ne pas annoncer que c'était justement à la recherche de la vérité que je partais, ni en quoi elle consistait pour moi. Ce n'est qu'à la fin du livre, et une fois les leçons de la vie comprises, que ma pensée se dévoilera. On songe à l'étymologie grecque qui fait provenir le mot vérité, aletheia, du verbe lantano, être caché, l'entreprise de vérité consistant à dévoiler ce qui est caché. On l'a vu, le raisonnement transforme le mensonge en erreur, la raison pratique, dirait Kant, en critique du jugement. D'autre part, une vérité cachée s'exprime à travers un mensonge provisoire. Dans le cours d'un raisonnement, les notions de mensonge et de vérité s'obtiennent au prix d'une démarche syllogistique que dégage très bien Anne Henry à propos de la jalousie. Si l'amour est mensonge, la jalousie qui est son contraire finit par donner accès à une vérité. C'est-à-dire que le rapport unissant mensonge et vérité, qui devrait s'éclairer dans l'immédiat au nom de la sincérité, se voit différé par l'organisation bipolaire de l'œuvre, et l'on a aperçu à quel point de vue le narrateur se reconnaît le droit de mentir pour respecter la vérité de sa situation de héros, sa situation plus ancienne que le présent de la vérité de l'écriture, sa situation de héros. Le mensonge porte d'ailleurs sur le passé, quand la vérité se voit projetée dans l'avenir, et c'est à ce croisement de prospection et de rétrospection qu'est confié le soin du partage. Les mensonges contraignent donc l'écrivain dogmatique à un commun impératif catégorique de se retenir de dire, de laisser se tromper. C'est ici que, par-dessus son narrateur, l'auteur apparaît pour commettre ses derniers mensonges. Et ce seront les derniers que je prononcerai aussi devant vous. Les déclarations de Proust sur la recherche du temps perdu sont en partie mensongères, touchant notamment à sa genèse. Considérons par exemple une lettre écrite à Rosny aînée peu après l'obtention du prix Goncourt. À peu près tout, je crois, est faux. J'ai dû commencer à la recherche du temps perdu vers 1906 et le terminer vers 1911. Car tous les volumes sont écrits, le dernier chapitre du dernier volume, non paru, a été écrit tout de suite après le premier chapitre du premier volume. Quand Swann a paru en 1913, non seulement à l'ombre des jeunes filles en fleurs, le côté de Guermantes et le temps retrouvé était écrit, mais même une partie importante de Sodome et Gomorre. Mais pendant la guerre, sans rien toucher à la fin du livre, j'ai ajouté quelque chose sur la guerre qui convenait bien pour le caractère de Monsieur de Charlus. L'écrivain repousse dans le passé toute l'étendue de la rédaction, parce qu'il s'agit de convaincre le public que le cycle romanesque est une œuvre entièrement concertée, fidèle dans ses développements même arborescents à une doctrine initiale. Proust, face à son lecteur, est comme le héros devant Albertine, il ment pour servir une vérité qu'il juge supérieure. Antoine Compagnon consacre les premières pages de son Proust entre deux siècles à confronter les déclarations de l'auteur et la datation de ses manuscrits de façon à faire la part du vrai et du faux dans ce qui est a posteriori affirmé. Le doctrinaire gomme le détail des circonstances, voire maquille la chronologie de l'écriture pour sa démonstration d'ensemble. C'est encore le développement propre de la matière romanesque qui glisse des mains du philosophe. Mieux vaut redisposer les faits pour que tout soit bien clair. Gide, précisément, lisant le début de la recherche tout en conversant avec Proust, avait noté dans son journal une telle intuition. Il fait remarquer que Proust n'aurait jamais tant insisté sur la composition de son œuvre, ne l'aurait jamais présentée à ce point évidente s'il n'avait pas ressenti qu'elle ne l'était pas du tout évidente. Alors, au terme de ces considérations, il serait assurément abusif de faire de Proust, pour l'essentiel, un menteur, un mythomane, et de prétendre que c'est au travail du mensonge, dans son esprit et dans son œuvre, que nous devons le fait que celle-ci soit parvenue jusqu'à nous. Envisager un sujet, ce que j'ai fait, oblige par artifice à le placer quelques instants au centre de tout, à l'issue de quoi il convient de lui laisser reprendre sa place au milieu d'un très grand nombre d'autres circonstances, d'autres angles de vue. L'analyse proustienne se montre si minutieusement attachée à approcher des vérités psychologiques, philosophiques et esthétiques qu'il y aurait dans une certaine mesure forfaiture à prétendre que l'auteur de la recherche ne doit l'essor de son œuvre qu'au déploiement du mensonge. Il n'en était pas moins loisible d'observer et d'essayer d'éclaircir la valeur opératoire du mensonge dans la fiction et autour d'elle, aux autres et à soi-même, dans la composition de la recherche. Celui qui vient d'être évoqué, le mensonge de l'écrivain redisposant l'histoire de son œuvre, n'est peut-être pas le même que celui que commettait le narrateur, présentant au lecteur de fausses conclusions en attendant des rectifications finales. Car l'épistolier qui, pour finir, réinvente les circonstances de sa création, c'est le romancier. Le romancier qui, encore en 1919-1920, ménage un grand vide entre le côté de Guermantes et le temps retrouvé, et masque par là la révolution qu'a introduite dans le cycle romanesque l'insertion étagée de tout le cycle d'Albertine, dont il n'est pas question dans la généalogie de l'œuvre. Est-ce parce que le roman a des sources biographiques directes qu'il faut nier les principaux accroissements de l'œuvre par rapport à leur structure initiale? La porosité du roman aux arrière-plans biographiques, à l'anecdote personnelle, même transposée, Albertine. Opère à la longue une sorte de retour du refoulé, l'écrivain ne parvenant pas à tenir la ligne de vérité qu'il s'est fixée. Mais si les omissions de Proust sur l'écriture de son œuvre concernent plutôt les rebondissements de l'invention romanesque, c'est en fin de compte parce que cette matière du roman, indocile et s'accordant des privautés sous la férule imparfaite du philosophe dogmatique, le philosophe préfère passer sous silence ses imprévus. Car, même s'il s'y abandonne partout dans ses cahiers, un penseur ne peut tolérer dans la structure de sa doctrine ces coups de barre et changements qu'il octroie si volontiers au caractère de ses personnages. Et les mensonges de l'auteur sur son œuvre résultent de l'écart qui s'ouvre dans la durée entre l'édifice conçu par le doctrinaire et les imprévus, petits et parfois immenses, qui surgissent sous la plume du romancier. Je vous remercie.